sur Radio Capi. Une heure pour parler des réalités quinoises, de 16h à 17h, heure de Kinshasa. L'information de proximité en Lingala et en français. Société, santé, environnement, économie, culture, sport et politique. Décryptage de l'actualité dans la capitale, vos communiqués et offres d'emploi, c'est dans InfoService. Au menu également, de la détente avec des humoristes de Kinshasa. Le décrochage de Kinshasa, c'est Radio Capi, près de chez vous.
Bien, merci d'être branché sur la fréquence de la paix. Comment faire face à la pénurie d'une main-d'œuvre qualifiée? Vous savez, les dossiers de plusieurs candidats à un poste vacant dans une entreprise sont souvent rejetés. Voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. La raison, aucun dossier ne répond au profil recherché par l'entreprise. Et parfois, l'entreprise se sent obligée de publier de nouveau cette offre-là. Jusqu'à trouver la personne qui répond aux critères, la personne qui a un profil, une personne qui dont le profil correspond à ce qui est recherché par l'entreprise. Alors que chaque année, nos universités déversent plusieurs diplômés sur le marché, mais lorsqu'ils vont chercher du travail, les dossiers sont rejetés. Alors comment expliquer cela? Est-ce qu'il y a un problème d'une main-d'œuvre qualifiée? On n'a pas assez de personnes qualifiées en RDC? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Yves Daniel Gaval, expert en ressources humaines. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Il y a une offre, les gens amènent des dossiers et puis personne n'est retenu.
Oui, il faut d'abord remettre la chose dans les contextes. Il faut noter que notre pays, depuis l'indépendance, nous avons un sérieux problème de préparation de cadres. Donc déjà, à l'indépendance de la République, on a noté que nous n'avons pas eu suffisamment de cadres pour pouvoir continuer la gestion de la resca publica ou encore des affaires. Donc ce qui a fait que immédiatement après l'indépendance, nous avons déjà des crises parce que nous n'avions pas eu suffisamment de cadres qui ont été formés là-dessus. Mais cela s'est accentué avec la problématique de la zaïrénisation qui a fait qu'il y a eu fuite d'investisseurs et des capitaux avec des séries de pillages qu'a connu notre pays, a fait que le pays n'était plus à même d'avoir de vrais professionnels pour booster le milieu du travail. Mais aussi, il faut relever un point, ce que notre système éducatif a contribué malheureusement à la formation de personnes sous-qualifiées, parce que c'est un système éducatif qui a pour finalité l'octroi des diplômes, point barre, parce que les gens ont suffisamment de diplômes dans ces pays. Mais il est triste de constater aujourd'hui, lorsqu'on veut recruter une main-d'œuvre qualifiée, on n'arrive pas à prendre dans la jeunesse congolaise, bien qu'elle soit diplômée, on préfère prendre ailleurs. Je vais te donner un exemple, je crois que nous étions en Colésie avec toi. Lorsque le maire de la ville nous a dit qu'il y avait une entreprise minière qui avait besoin de 10 soudeurs professionnels, et on a cherché dans toute la ville Colésie,
on n'a pas trouvé de soudeurs professionnels.
On est allé prendre des Indiens qui sont venus pour travailler dans cette entreprise. Voilà, les emplois sont partis, tout simplement parce que nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée.
Mais les Indiens qui viennent travailler, les jeunes gens se plaignent à Colésie.
Effectivement, donc il y a plusieurs raisons, si vous voulez, qui font que aujourd'hui nous puissions avoir un sérieux problème par rapport à la main-d'œuvre qualifiée. J'ai commencé par citer l'ambiguïté de notre système éducatif aujourd'hui, qui est orienté plus vers l'octroi des diplômes que vers la formation des vrais professionnels qui doivent répondre à la demande de milieux professionnels. Mais aussi, nous avons une sorte de constipation professionnelle en ce qui concerne la retraite. Donc, vous savez que nous avons un système aujourd'hui qui ne permet pas aux gens d'aller à se reposer. On doit décongestionner ces systèmes en envoyant certaines personnes en retraite et en faisant entrer d'autres personnes qui doivent le remplacer, parce que ces personnes qui ont déjà atteint un certain âge ne sont plus performants. Et aujourd'hui, si on veut avoir une personne un personnel qualifié, je pense qu'il faut penser à renouveler un peu cet appareil sociétal en matière d'emploi, en mettant en œuvre de personnes qui ont assez d'expertise pour booster le milieu professionnel. Mais il faut aussi noter que...
Mais une chose, on ne va pas demander, par exemple, une qualification à un jeune homme qui vient de terminer sa formation universitaire. Pour être qualifié, donc, il faut des, je pense qu'il faut déjà avoir travaillé quelque part, on a de l'expérience, et à ce moment-là, on maîtrise son domaine.
Oui, voilà, c'est là où revient maintenant la question de la définition même de d'une main d'œuvre qualifiée.
Ben voilà, commençons par là.
C'est quoi une main d'œuvre qualifiée?
Oui.
Donc, d'aucuns croiraient qu'une main d'œuvre qualifiée, c'est le fait d'avoir un titre académique, mais c'est pas le cas. Vous pouvez avoir un titre académique, mais vous n'êtes pas qualifié. Les preuves ici en RDC, on a combien de diplômes qu'on déverse, mais ces personnes ne sont pas toujours qualifiées. Quand on parle d'une main d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire c'est d'abord une personne ressource. Quand on parle d'une personne ressource, c'est une personne qui a la capacité de réunir trois choses, c'est-à-dire il a un capital d'employabilité, c'est une personne qui a le sens de la compétitivité et qui est une personne qui est performante. Donc ça, ce sont de grands thèmes qu'on doit retrouver lorsqu'on définit une main d'œuvre qualifiée. Donc c'est un professionnel qui est doté d'un capital d'employabilité, qui est doté de capacité de compétitivité et de la performance. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer que le jeune qui quitte nos universités a un capital d'employabilité? Est-ce qu'ils sont capables de compétir avec d'autres jeunes qui suivent des formations ou qui viennent des universités de par le monde? Est-ce qu'aujourd'hui notre jeunesse a la capacité de produire des résultats avec performance? Voici des questions. Aujourd'hui, quand on parle d'une main d'œuvre qualifiée, on veut voir cette personne qui peut réunir ces trois éléments à la fois. Mais aujourd'hui, nous avons que des jeunes qui ont des simples diplômes octroyés par un système éducatif inféodé par des théories qui sont en déphasage avec les réalités académiques du monde professionnel. Et in fine, on a une masse importante de gens avec des diplômes qui sont sous forme de trophées.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une main d'œuvre qualifiée?
Oui, pour avoir une main d'œuvre qualifiée, je crois que la première des choses, nous devons passer par la professionnalisation de notre système éducatif et de nos diplômes. Donc, les diplômes, le système éducatif doit cesser de fonctionner comme une machine de production de simples diplômes qu'on doit remettre à la jeunesse, mais c'est un système qui doit aider la République à se développer, c'est-à-dire en tenant compte, en mettant de programmes réalistes qui répondent aux besoins de développement du pays avec des formations axées sur des domaines spécifiques, axées sur la profession pour permettre de booster tout ce qui est développement économique dans notre pays. La professionnalisation de nos diplômes et des systèmes éducatifs.
Et comment le faire?
Et comment le faire? C'est en passant par des réformes courageuses et puis sérieuses. Pas des genres de réformes où le cours qui s'appelait éducation à civisme devient éducation à la citoyenneté. Non, nous passons de tels systèmes à LMD avec le même contenu, le même professeur qu'on ne prend pas soin d'envoyer suivre des formations et qu'on ne paye même pas très bien. Et ce sont les mêmes syllabus où on change de couverture en changeant des années académiques. On s'est dit on passe de tel système à tel système. Ça, c'est une blague, c'est une aventure. Nous voulons aujourd'hui qu'on puisse avoir des réformes qualitatives et quantitatives. Qualité en termes de contenu, de normes qui doivent régir notre enseignement. Vous savez que quand on cite les 50 premières universités en Afrique, nous ne sommes pas comptés. Il n'y a aucune université congolaise, d'après les informations que j'ai eues. Et c'est une honte pour la République. Mais aussi... En termes de la quantité.
Cela veut dire que lorsque par exemple un étudiant quitte et termine ses études, il doit déjà il doit déjà être professionnel.
Mais effectivement, il doit être une main d'œuvre qualifiée en réunissant un capital d'employabilité, être compétitif et être performant. Sinon, à quoi serviraient les études si ces études ont pour finalité de donner à quelqu'un un simple papier, un diplôme, et ces diplômes ne lui permet même pas de décrocher un emploi ou encore d'en créer. Mais alors, c'est à quoi bon d'entretenir un tel système?
Par exemple, pour le cas d'écologie, vous avez dit les entreprises minières recherchent des soudeurs et on n'en trouve pas, par exemple, dans la région. On va chercher des Indiens ou des Pakistanais qui viennent d'ailleurs. Alors, cela veut dire quoi? À l'université, par exemple, de Colosie ou dans les universités sur place, on doit commencer à former des soudeurs?
Mais oui,
et surtout la pratique.
Effectivement, vous trouverez, et juste à côté, il y a des écoles même où on forme des mécaniciens. On a des jeunes qui font mécanique générale, mécanique ceci, mais pourquoi pas rendre cet enseignement un peu plus professionnelle pour donner ne fût-ce que la chance à ces jeunes qui font déjà la mécanique d'arriver à devenir professionnels, qu'on arrive à trouver des soudeurs professionnels parmi cette jeunesse. Mais vous trouverez le programme d'enseignement donné en mécanique. Ce sont des programmes aussi vastes, aussi vagues, qui ne donnent pas la chance à un jeune qui a fini en mécanique, par exemple, d'être soudeur professionnel. C'est là où on doit travailler sur les aspects de qualité de notre système d'enseignement et aussi sur le plan de la quantité, parce que nous avons un système qui est très long. Pour avoir un diplôme de licence, il faut deux décennies, c'est-à-dire une vingtaine d'années, quand tu prends de l'école primaire en deuxième licence, alors qu'on peut réduire suffisamment
le nombre d'années. Pour les licences, puis, là, on ne forme pas la main d'œuvre. Je pense que c'est plutôt des cadres.
Oui.
Les cadres des directions, peut-être.
Oui.
Je sais pas, au cadre moyen.
Mais les cadres des directions, mais ils occupent quel poste? Est-ce que vous trouverez un licencié qui n'a même pas à mesure d'élaborer un bon CV? Qui n'est même pas à mesure de répondre correctement à un recruteur? Et en quoi il est cadre de direction? Donc moi je pense qu'on doit sortir de cette tradition de former des gens pour le simple plaisir de les former, excusez-moi, mais d'arriver aujourd'hui à définir un contenu qu'on veut donner à notre système éducatif pour permettre aux jeunes qui dépensent de leur argent, l'énergie et de leur temps de pouvoir accéder à des informations de qualité et d'arriver à le vendre sous le marché de l'emploi une fois fini au lieu d'étudier et ne pas étudier, vous avez le même sort, c'est-à-dire vous aurez du mal à se faire qualifier par rapport à l'emploi. Donc, je parlais aussi de systèmes de retraite. Mmh. Aujourd'hui, si nous n'avons pas une main d'œuvre qualifiée, c'est parce que nous avons des jeunes qui ont aussi fait des bonnes formations peut-être à l'étranger ou ça et là, mais qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi tout simplement parce qu'il y a une sorte de constipation professionnelle ou des gens qui ont atteint un certain âge n'arrivent pas à laisser reposer parce qu'il n'y a pas de politique réaliste qui accompagne ces gens en retraite. Ce qui fait qu'il y a des jeunes qui préfèrent aller à l'étranger. Donc, il est ici, mes compétences, on ne sait pas prendre ça et je ne peux qu'aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas suffisamment de l'espace. Donc, ça aussi, c'est une des raisons.
Les vieux qui ont pris de l'âge ne quittent pas leur poste, ils sont toujours là.
Non, ils sont là parce que la retraite, quand
n'est
vous
pas
parlez...
Assuré.
Oui, la retraite, c'est le mouroir. À dire à un vieux d'aller se reposer, c'est de lui dire d'aller mourir.
Il préfère venir chaque jour au bureau, il peut trouver un peu d'argent.
Pendant qu'il travaille, d'ailleurs, il n'est même pas bien rémunéré. Et quand il sera encore en retraite, mais c'est déjà le précipiter à la mort. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudra des politiques aujourd'hui réalistes qui met en exergue les aspects d'accompagnement de ces personnes qui doivent aller en retraite pour qu'ils ne puissent pas se sentir dépaysés. On peut les regrouper à des coopératives d'entreprise et ils peuvent continuer à faire certaines choses parce qu'ils ont quand même une certaine expérience. Ils peuvent contribuer tant soit peu à l'accompagnement de certaines structures, de jeunes ou autre chose, à travers des formations spécifiques. Donc, il faudra vraiment mettre en place un bon mécanisme pour pouvoir amener ces gens à accepter d'aller à retraite et aussi de valoriser tout ce qu'ils ont fait. Parce que quelqu'un qui a fait 50 ans en train de rendre des services à la République et quand il doit quand même sortir, ça doit être des sorties honorables. Il ne faut pas que ce soit des gens que nous allons jeter dans la rue alors qu'ils ont rendu des services énorme à la République.
Bien, comment faire face à la pénurie d'une main-d'œuvre qualifiée? On en parle aujourd'hui avec Yves-Daniel Ngavan. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Comment faire face à la pénurie d'une main-d'œuvre qualifiée? Yves-Daniel Ngavan, expert en ressources humaines, est notre invité. Vous voulez participer? N'attendez pas les dernières minutes. Composez les 081 890 63 94. Mais une des raisons, certains disent que s'il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée, c'est parce que tous les jeunes qui finissent l'humanité, les études au niveau du secondaire veulent aller à l'université. Et pourtant, il y a des écoles professionnelles des écoles des métiers où ils peuvent apprendre les métiers et ça leur permet d'être de se qualifier dans leur domaine.
Oui, effectivement, il y a des écoles de métiers, Mais le problème dans son ensemble, c'est que, comme je l'ai dit, les programmes ou les contenus de formation en RDC doit être revu de bout en bout, en commençant par toutes ces structures qui offrent des formations professionnelles. Mais quelle est la valeur de ces formations qu'on donne aux jeunes? Parce que nous avons toujours ce problème d'une main-d'œuvre qualifiée qui se pose, que ce soit au niveau des centres de formation, des structures, des métiers, que ce soit au niveau de l'université. Donc l'appareillage éducationnel de la République doit être revu. Donc nous devons aujourd'hui essayer d'aligner nos formations en lien avec les développements. Dans 10 ans, où est-ce que nous voulons voir la RDC dans 10 ans, sur tel aspect, tel aspect, tel autre? Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre toutes ces informations, on le met dans un contenu qu'on appelle un système éducatif, et nos jeunes peuvent y accéder pour se faire former et être utiles à la République demain en rendant des services. Mais si aujourd'hui nous formons parce que nous avons des structures qui doivent former, et à la fin on donne des diplômes ou des certificats, moi je pense que ça ne servirait à rien. Mais pour résoudre aussi le problème de la main-d'œuvre qualifiée en RDC aujourd'hui, je pense qu'on doit arriver à créer aujourd'hui une agence nationale de gestion de compétences et de l'emploi. Donc aujourd'hui, on doit savoir quelle sorte de compétences que la République a besoin pour pouvoir se développer. Et comment on peut alors créer des emplois en mettant en place un cadre référentiel et prévisionnel des emplois d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Mais c'est là où l'ONEM a complètement échoué, parce que l'Office national de l'emploi que nous avons aujourd'hui, c'est une structure décousue qui n'aide même pas la République à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous devons aller dans le sens d'avoir des agences, une agence nationale qui gère les compétences, qui doit nous dire quelles sont les compétences que la République a besoin et quel est le cadre référentiel des emplois que nous devons créer, que nous devons avoir pour que dans 10 ans nous puissions avoir autant d'emplois dans tel secteur, et voici les compétences qu'on va utiliser pour y arriver. Mais aussi, si nous voulons avoir une main-d'œuvre qualifiée, moi je pense qu'on doit améliorer d'abord les conditions de vie et de traitement de travailleurs congolais et les autres. Parce que comment vous voulez avoir une main-d'œuvre qualifiée localement, alors que le traitement infligé aux Congolais semble ne pas être bon? Le salaire, par exemple, quand vous prenez notre SMIG, il est vraiment faible. Et vous prenez d'autres conditions, ça fait que ça n'encourage pas certaines personnes qui ont une certaine qualification de travailler au Congo. Ils préfèrent aller ailleurs ou ils préfèrent faire autre chose au lieu de chercher à travailler, parce que les conditions de vie, les conditions de traitement réservées à cette catégorie de personnes n'est pas aussi évident.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne, Ramazani Demoba, Arsène Odo de Dar es Salaam. Ramazani, bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour Jordi, bonjour aussi à l'invité. Moi, je suis à Moba actuellement dans la province du Tanganyika, mais je suis d'accord avec l'invité qui dit que c'est vrai, en RDC, si vous rendez dans des écoles techniques, la plupart des écoles forment des cadres, mais qui ne sont pas vraiment qualifiés en matière de pratique. Comme moi, par exemple, je donne mon exemple, je suis un diplômé mécanique général, j'ai terminé à l'ICASI, à l'Institut Technique Industriel SNCC, qui est l'une des plus célèbres techniques à l'ICASI. Mais il y a d'autres choses que je suis allé voir seulement donc quand je suis allé en stage en cinquième année à 75 kilomètres de l'ICASI, dans une usine comme ça de Belge, là où on exploitait le cuivre, ça s'appelait Boss Mining. C'est là que j'ai découvert d'autres choses que je n'avais pas même vues à l'école. Donc je me suis rendu là-bas et je voyais que tout était nouveau par rapport à ce qu'on voyait à l'école. Et même quand je me suis rendu à la centrale de Mwadingusha en mars 2013, là aussi c'était la même chose. C'est qu'on nous apprenait en mécanique et la pratique que j'ai vue à la centrale de Mwadingusha là-bas, c'était vraiment donc étrange pour nous. On voyait que c'était du nouveau, on était dans un autre monde. Vraiment, ce que je peux demander à l'État, donc, c'est de mettre vraiment des institutions sérieuses et qu'on mette aussi des pratiques dans nos institutions techniques, puisqu'on n'étudie rien que la théorie. Imaginez-vous, je suis là, un mécanicien, un diplôme mécanicien, mais si on m'engage dans une usine, je ne peux rien faire. Moi-même, je l'avoue. C'est ça un peu ma contribution.
Merci Ramazani. Arsène Odo, depuis Dar es Salaam, en Tanzanie. Bonjour, et quelle est votre question?
Je suis fier encore de m'associer à la mission. En fait, ça... l'avis de notre invité et je suis fier de ce qu'il est en train de dire. Mais je le demande concernant cette pénurie. Bon, est-ce que ça ne peut pas être à la cause des manques de communication? Parce que souvent, vous verrez, il y a des gens qui n'ont pas un délai maximal, soit de ces deux semaines, une semaine. On se rendra compte que tout le monde n'est pas informé et il n'y a pas vraiment les bons accès pour les étudiants qui sont encore au niveau de l'université ou bien de demander des emplois. Autre chose aussi, ça ne pouvait pas être à la base de la bourse parce que vous savez aujourd'hui, bon, il y en a celles qui déposent souvent leurs documents d'offres d'emploi, bon, et souvent il y a les clientélismes, les membres des familles, les amis, tout ça, et ainsi de suite. Ça met de certaines personnes au doute parce que même si vous effectuez des interviews, peut-être que ça ne sera pas pour votre bénéfice, pour votre profit, et ça va créer des soucis, et ça sera des déceptions, même si je passe là-bas, je ne serai pas satisfait. Et c'est là où je demande aux invités qu'ils ne sont pas des causes là qui fait assez des nouveaux c'est ça.
D'accord, merci. François Kabea de Kananga, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'avais des petites préoccupations à poser à notre invité par rapport au sujet du jour. Je suis, par exemple, un chef d'une certaine entreprise. Alors, quels sont les critères de mon recrutement? Et puis, ma deuxième question, c'était juste de savoir, par rapport à la rémunération brute, qui me donne un peu...
Oui, ça, ce n'est pas le thème du jour, François. Aujourd'hui, nous parlons de la main-d'œuvre qualifiée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de manque de la pénurie d'une main-d'œuvre qualifiée? Là, ces questions-là, on va les aborder peut-être dans une autre émission. Merci d'avoir appelé, Yves Daniel.
Ok, merci beaucoup. Je reviens à Ramazani, qui est à Moba, qui est un mécanicien qui a avoué, et je peux te dire que j'ai accompagné un programme qui visait effectivement à améliorer l'employabilité de jeunes issus de filières techniques avec la coopération technique belge.
Et
Alikassi. Nous avons eu le même problème. Aujourd'hui, quand je dis que nous devons avoir des réformes courageuses et sérieuses, c'est-à-dire on doit arrêter de continuer, par exemple, des gens qui font la technique, la mécanique, on continue à donner plus de théorie à ces jeunes que la pratique. Vous trouverez que les labos de recherche ou les ateliers sont, il n'y a que de vieux machines abandonnées depuis l'époque de la colonisation qu'on n'a jamais renouvelées. Imaginez-vous quelqu'un qui finit en mécanique mais n'a jamais fait un stage pratique. Mais écoutez.
Alors que la technologie évolue. Aujourd'hui, nous avons d'autres types de machines.
Et on appelle ça un programme éducatif. Mais en quoi on joue? On joue finalement dans la formation de nos jeunes. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas prétendre former un mécanicien avec des simples théories. Il n'y a pas de labo. Il n'y a pas d'atelier. Et en plus, nos mécaniciens, depuis l'époque coloniale, ils s'arrêtent que à réparer. Mais quand est-ce que le système éducatif va mettre en place des mécanismes pour que nos jeunes arrivent aussi à fabriquer? Est-ce que la RDC n'a pas une vision demain d'avoir des usines de fabrication de voitures? On doit, jusqu'à quand on doit continuer à former des techniciens qui ne seront là que pour réparer? Mais non, je pense qu'aujourd'hui, on doit repenser le système éducatif, surtout en ce qui concerne les aspects techniques, que ça ne soit pas des simples slogans, mais que ça soit des réformes qui visent effectivement à aider le jeune, un jeune mécanicien qui finit la République démocratique du Congo, qui soit à même de travailler et calmement et d'avoir aussi des atouts pour pouvoir fabriquer. Donc, en mettant en place des labos de recherche, en mettant en place aussi des ateliers et des formations et des suivis. Donc, quand vous allez dans ces écoles, vous trouverez la plupart des jeunes qui font la mécanique aujourd'hui ou la technique, ce sont des ratés. Même dans nos familles, quand quelqu'un a un enfant qui n'est pas brillant, on dit « il est face à la mécanique ». Donc toi, tu dois aller faire la mécanique. Et on n'envoie que des gens qu'on pense qui ne sont pas performants, on les envoie alors que ce sont des secteurs sensibles où on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui pour booster l'économie en accompagnant les autres secteurs. Donc, il est vraiment important aujourd'hui qu'on puisse revenir sur le contenu de notre système éducatif. Et aujourd'hui, comme j'ai souvent dit, on doit plus aller vers la technicité si on veut avoir une main-d'œuvre qualifiée. Au lieu d'avoir beaucoup de théories, trop de biochimie, trop de littéraire, trop de ceci, même dans des régions où on n'a même pas de labos de recherche, dans un village où il n'y a même pas un labo de recherche, vous trouverez que nous vous vous avez biochimie là-bas. In fine, quelqu'un qui finit là-bas, qui ne sait pas venir à l'université, il est perdu. Donc, on doit mettre plus de technicité. Et là, on me dira, non, déjà, c'est un processus au niveau de l'enseignement. On met en place... Oui, je sais que... le processus des réformes chez nous, et ça devient des génériques. Mais nous voulons aujourd'hui qu'on arrête tous ces slogans. Non, il y a déjà des réformes en cours, il y a des réformes. Mais nous voulons avoir des réformes qui portent des fruits, au lieu que ça reste des simples souhaits.
Nous voulons avoir une main-d'œuvre qualifiée.
Effectivement, nous avons besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Sinon, on va continuer à avoir un chômage qui reste galopant. Pourquoi? Parce que même des choses qu'on doit donner aux Congolais, on sera obligé de faire venir des expatriés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons le secteur immobilier qui monte en puissance. Vous voyez, on est en train de construire en hauteur de part et d'autre. Et quand on construit, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, par exemple. On a besoin de gens qui doivent faire la décoration intérieure. On a besoin de gens qui doivent faire des câblages, de ceci, de cela. Mais quand vous allez sur ces chantiers, mais vous trouverez ce sont des expatriés qui font ça, mais il y a des jeunes qui ont fini en électricité. J'ai posé la question à mon neveu qui a fini l'université, qui a fini en électricité. C'est, tu peux faire ça? Non, moi je sais juste réparer les ampoules ou changer des ampoules et installer des prises. Donc c'est tout ce qu'il a appris, c'est installer des prises et changer des ampoules. Alors que si on pouvait déjà, dans sa formation, lui donner des notions beaucoup plus pratiques, mais tous ces emplois que nous voyons dans les secteurs immobiliers, on peut les donner aux Congolais. Donc, c'est ça un peu la difficulté.
Voilà, nous avons en ligne Kinda de Manono et Mary également, et dans la même ville. Kinda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Premièrement, merci notre invité.
Oui.
Le thème même m'a passé, je ne sais pas le thème. Vous pouvez répéter le thème.
Oh là là. Comment est-ce que vous voulez intervenir pour un thème que vous ne maîtrisez pas? Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir appelé à la prochaine. Et Mary nous appelle aussi de Manono. Bonjour.
Non, je vous appelle à partir de Colésie.
Vous êtes plutôt à Colésie.
Bonjour, monsieur Radio Capi, merci l'invité. Bonjour, monsieur l'invité. Bon, je voulais... Allô?
Oui, allez-y, mairie de Colésie.
Oui, je voulais dire ceci. On me fait qu'au plateau, c'est pas un peu ce qu'il dit. Il y a des soudeurs à Colésie. Le problème, c'est que les critères, vous étiez là, pour les sociétés des mines qui est ici, engagent les gens qui parlent l'anglais. Notre éducation, il n'y a pas de cours d'anglais vraiment renforcé. Alors, comment c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais? Il doit aller faire l'interview en anglais. Vous voyez pas, il n'y a pas de rapport.
Ah, donc il y a
notre enseignement, c'est en français.
Oui.
Notre enseignement, c'est en français, mais le critère, il faut parler l'anglais. Un soudeur, j'étais à Dikoumouchi, je connais bien tous les mines. Si tu connais l'anglais, là tu es bien. C'est pour ça qu'on parle les Indiens, on nous laisse nous. Ici à Lubumbashi, par exemple, il y a un peuple qui forme des soudeurs. Il y a école de Salisiens ici, cité des jeunes. Ils forment des bons soudeurs, des meilleurs. Mais c'est l'anglais qui pose des problèmes. D'autres choses, il a raison. J'ai donné cours. Je connais qu'est-ce que la mécanique. Ne confonde pas la mécanique et machine outil. Mécanique générale et mécanique auto. Quand tu parles à l'Iti Massina, Iti Gombe, Iti Njiri, tu trouveras des bons tourneurs, des gens qui font la gestion pratiquement. Mais quand on ne parle pas l'anglais, il n'y a pas moyen de l'engager.
Voilà.
Bien sûr, on doit changer notre système éducatif. Prenons par exemple à la coupe et couture. Il y a des cours de physique en troisième année, à quatrième année, il n'y en a pas, mais en cinquième année, il y en a. En fin d'année, il n'y en a pas. Donc, il faut qu'on change. On change la méthodologie des données de cours. On change tout. Et puis, qu'on oblige à notre État qu'on place seulement les gens qui parlent français. Et vous verrez, les gens doivent travailler.
D'accord. Merci, Emery de Colésie. Jean-Paul, vous êtes aussi à Colésie. Bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi ainsi que.
On vous écoute.
Ma préoccupation est celle de savoir par rapport à la disposition du code du travail. Mmh. De voir une clause d'essai avant toute conclusion d'un contrat de travail. Quelle lecture l'invité peut nous donner à ce sujet? Puisque refouler quelqu'un qui vient d'office ou qui vient pour la première fois et lui dire que vous n'avez pas une expérience professionnelle aussi longtemps que vous l'avez jamais testé, c'est aberrant. Mieux vaut d'abord le prendre et puis vérifier par la suite s'il est compétent ou il a une expérience. Ça, c'est ma préoccupation. Si notre invité peut nous situer par rapport à ça.
Merci Jean-Paul Décolésie. Yves Daniel.
Ok, merci. Je pense que lorsqu'on parle de contrat d'essai, nous sommes déjà très avancés dans le processus de recrutement. Donc pour que tu arrives même à signer un contrat, c'est-à-dire dès le départ, tu dois être présélectionné, sélectionné, et à l'issue de plusieurs épreuves, ça peut être des tests écrits, les tests psychotechniques, ça peut être aussi les entretiens, et à l'issue de tout cela, que vous pouvez arriver à décrocher un contrat, et c'est dans ces contrats qu'il y a des dispositions par rapport à la période d'essai et ainsi de suite. Donc le plus grand problème ici, il faut pas dire qu'il faut d'abord tester quelqu'un. On teste quelqu'un par des tests, on teste pas quelqu'un en lui faisant signer un contrat de travail. Là,
Il n'existe pas de contrat d'essai, non?
Non, le contrat d'essai, pour qu'on te donne le contrat d'essai, il faut d'abord nous prouver que tu es capable de faire quelque chose en ce moment-là qu'on va t'essayer. Mais imaginez-vous quelqu'un déjà de la présélection qui a un dossier ambigu, qu'on sent que son profil ne répond pas aux exigences du poste qui est en face de lui, mais on va pas le prendre pour qu'il signe un contrat d'essai. Donc, il faut déjà en amont avoir un profil qui répond aux exigences de l'employeur et à ce moment-là, que vous allez passer les autres étapes et à l'issue de ces étapes, on peut vous faire signer un contrat et comme on peut peut-être trouver, je l'ai vu généralement, de gens qui n'ont pas assez d'expérience professionnelle, mais au moins ils ont une certaine expertise par des formations, par des stages. On dit ok, nous pouvons prendre les risques de commencer avec toi, mais d'abord tu vas faire un essai. Donc tu signes avec une période d'essai peut-être de 30 jours, d'un mois, ainsi de suite, pour qu'on puisse un peu voir comment tu pourras évoluer avec nous. Mais en ce qui concerne le système éducatif, notre ami qui a dit qu'à Colouésie, il y a des soudeurs professionnels, je suis très content s'il y en a maintenant, mais moi, je pense qu'en 2014, quand nous sommes allés à Colouésie, et c'était à haute voix, nous étions à Notre-Dame Fatima, c'est l'autorité locale à l'époque qui a fait cette révélation. Donc moi je pense que si aujourd'hui Colousie a pris conscience,
dit que c'est la langue, c'est la question, le grand problème, c'est la langue.
Oui.
Des soudeurs qui parlent anglais.
Oui, effectivement. Moi je pense que la question de l'anglais aujourd'hui, c'est comme les Français. Pourquoi aujourd'hui nous nous frappons à la poitrine? Non, le français, nous sommes un pays francophone, mais le français n'est pas la langue de nos ancêtres. Si de la même façon que nous avons pris le courage d'apprendre le français, pourquoi pas aussi apprendre l'anglais? Donc moi je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas devenir un obstacle. Le français n'est pas la langue nationale du Congo. Le français, nous l'avons adopté par le colon qui ont voulu que nous puissions apprendre en français, et nous pouvons aussi de nous-mêmes aussi apprendre l'anglais parce que
le système éducatif doit être en anglais. Il faut commencer à enseigner les enfants en anglais.
Bon, si aujourd'hui les systèmes éducatifs pouvaient aussi adopter l'anglais, je sais qu'il y a des cours d'anglais qui se donnent déjà dans notre système éducatif.
Il y a des cours d'anglais, bien sûr.
Mais généralement aussi c'est l'attitude de jeunes. Combien de jeunes? Moi, j'ai vu dans des écoles où quand les cours d'anglais commence, les gens sortent,
les gens s'ennuient,
ils dorment ou ils dérangent parce qu'ils pensent que l'anglais n'a pas d'importance. Or, aujourd'hui, la plupart d'entreprises qui viennent avec du travail parlent anglais. Donc, je pense qu'il y a d'abord une conscience individuelle. Nous devons être conscients des enjeux par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, par rapport à la main-d'œuvre, si on veut être une main-d'œuvre qualifiée, je pense que, surtout sur les aspects techniques, il faut apprendre l'anglais. La plupart des notices aujourd'hui, la plupart des catalogues que vous trouverez, une grande partie, c'est en anglais. Oui. Beaucoup de machines aujourd'hui, c'est en anglais. Mais je ne comprends pas quelqu'un, tu veux bien faire la mécanique, mais tu ne veux pas apprendre l'anglais alors que les notices sont en anglais. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas parler en langue pour comprendre toutes ces littératures. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'école doit renforcer les programmes d'anglais, mais aussi individuellement, nous pouvons nous inscrire. Il y a plusieurs centres qui forment en anglais, surtout pour des gens qui travaillent dans les domaines aussi techniques, de pouvoir arriver à apprendre l'anglais. Et si, au niveau de l'enseignement technique, on peut renforcer aujourd'hui certains cours aussi, par exemple technique, si ça peut se donner aussi en anglais, je pense que ça va aider nos jeunes à avoir un peu plus de qualifications.
Moïse Sadiki est à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Jourdi. Bonjour, l'invité.
Quelle est votre question, Moïse?
Oui. Moi aussi, j'avais une préoccupation. Je voulais réagir par rapport à ça parce que ça me concerne. Mmh. Moi, je suis un technicien aussi. Je fais la technique à l'Institut professionnel Mbouya Kalemi. On a connu de tels cas pareils par rapport à nos machines parce qu'à l'époque-là, il y avait des rentrées qu'on voulait sur nos machines. Et arrivé à ce moment-là qu'on allait faire l'année terminale, on était censé de descendre à un autre endroit, là où on appelait la l'utilisation. C'est là où on faisait les rares, nos pratiques. Mais c'est malheureux, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on n'arrive pas à fournir une bonne qualité, une bonne professionnalisme, c'est par rapport aussi à nos écoles. L'État puisse faire le mieux possible de nous fournir des écoles qualifiées, pas de ce qu'on est en train de vivre à ce moment. Aujourd'hui, on est technicien par rapport à nos propres efforts. On est en train de fournir nos propres efforts, aller à une personne qui est bien placée pour s'apprendre du niveau. Écoutez, moi, je fais la technique. Et j'ai trouvé qu'avec la technique, il faut qu'il y ait la vocation aussi de la personne concernée. C'est pas seulement quand on vous présente nos machines sophistiquées et arriver là-bas, tu ne connais rien et tu n'as pas l'amour de ce que tu fais et tu vas te retrouver. Aujourd'hui, on est sollicité par-ci, par-là à travers de nos travaux qu'on est en train de faire, à bâtir sur le terrain. Moi, je pense que nos jeunes techniciens peuvent aussi être donnés et aimer ce qu'ils ont choisi comme filière. Et à ce moment-là, on va tenir une bonne qualité de professionnalisme. Quoi.
Merci, Moïse. Merci. Merci Moïse. Yves Daniel.
Oui, merci. Il dit des choses vraiment intéressantes parce que aujourd'hui, même par rapport au choix des filières d'études, je crois que nous avons eu un atelier dernièrement avec les jeunes diplômés par rapport au choix des filières d'études. Aujourd'hui, je pense que nous devons, dans le pays tel que la République démocratique du Congo, nous devons plus mettre un accent vers la technicité, c'est-à-dire tout ce qui est technique, pour pouvoir avoir une main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'une main-d'œuvre qualifiée, comme on dit, c'est un personnel qui a atteint un seuil très élevé en ce qui concerne l'employabilité et pas seulement d'avoir s'arrêter à avoir un titre académique, comme nous avons des jeunes qui sont mécaniciens de nom, ils ont seulement un diplôme de mécanique, mais ils n'ont pas un savoir-faire, ils n'ont pas un savoir-être, parce que un mécanicien, comme il a dit, il faut aimer la chose, c'est-à-dire il faut d'abord avoir la pratique, mais quand vous faites la mécanique, vous faites des notions techniques, vous n'avez pas de labo de recherche, vous n'avez pas des ateliers, des machines qui sont là, ce sont des machines sur le marché, ça ne se voit plus, ce sont des machines qu'on trouve dans des musées. Donc les labos que moi j'ai vus par exemple dans certaines écoles, ce sont des labos qui se ressemblent aux musées. Donc les machines qui sont là, tu peux apprendre pendant 100 ans, tu sors, tu ne les trouveras plus jamais. Donc on doit aujourd'hui renforcer les savoir-faire et aussi les savoir-être en termes d'éthique, parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que
aujourd'hui, nous avons quand même l'INPP qui est équipé qui travaille avec les Japonais, qui
les Japonais,
a quand même les,
voilà,
un équipement.
Ça c'est une très bonne chose, mais je pense que on ne doit pas seulement s'arrêter à l'INPP. Il faut que toutes les écoles techniques puissent avoir des moyens pour se doter des machines. Et je parlais de savoir-être. Vous savez qu'aujourd'hui, le domaine technique chez nous, on s'est qualifié par des menteurs, des gens des escrocs, on sait que de mécaniciens, de ceci, ce sont des escrocs. Moi, je pense que c'est cette image qu'on doit laver aujourd'hui. On doit renforcer les aspects éthiques dans la formation de notre main-d'œuvre si nous voulons avoir une main-d'œuvre qualifiée. Mmh. Aussi, les aspects éthiques. Parce que quand vous avez des gens, quand on lui dit de faire un devis de 10 mètres, il met 15 mètres pour prendre le 5 mètres, ou au lieu de finir un travail, il prend une partie, il met dans sa poche. Là aussi, ça pose problème, ça discrédite la main-d'œuvre congolaise. Donc, nous devons aujourd'hui, si on veut avoir une main-d'œuvre qualifiée, c'est des personnes qui doivent être formées pour avoir un seuil d'employabilité acceptable, qui doivent être compétitives, qui doivent être performants, dotées d'un savoir-faire, aussi d'un savoir-être acceptable.
Voilà, et les aspects éthiques aussi ne sont pas à négliger. Merci. Yves-Daniel Ngavan, expert en ressources humaines, le numéro par lequel on peut vous joindre.
Oui, nous avons le même numéro. Notre standard, c'est les 081 166 21 26.
Bien, à la prochaine.
Merci.